Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Eric.
Bonjour, bonjour Lama. D'abord, je vous remercie beaucoup de me mettre à l'antenne parce que je pense que vous avez beaucoup d'appels.
Oui, c'est vrai que nous avons énormément de réactions, de soutien, de personnes qui rebondissent sur les expériences qu'on a entendues. Mais on vous écoute.
D'accord. Alors moi, la grande question que je vais vous poser, je vais d'abord faire quelque chose de très général, on va dire. Mm-hmm. C'est, est-ce que vous pensez qu'une personne en dépression, personne dépressive qui est connue depuis 4 ans,
depuis 4 ans ? Qui est ?
Oui, depuis 4 ans.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il est suffisant de voir un psychiatre ou est-ce que ce serait bien, en fait, qu'il voit d'autres personnes comme un psychologue, comme un psychanalyste éventuellement, etc. Parce que voilà, moi je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, j'ai été considéré en dépression en février 2017. Donc je travaillais à l'époque depuis 9 ans. Donc, je ne pensais pas avoir de problèmes. Et en fait, c'est des problèmes que j'avais depuis 20 ans, moi. Mais bon, qui ont été vraiment mis... où j'ai craqué, en fait, vraiment en 2017. c'est-à-dire que je me suis mis à pleurer.
Oui.
Et c'est là que je me suis dit, non, ça ne va plus, là. Il faut que j'aille voir une psychiatre.
Comme voilà. Ça, comme si c'était sans raison. Vous avez été débordé par les pleurs.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, voilà, avant, je mettais en rayon, c'était un travail régulier ou sur lequel je me débrouillais bien, mais j'en avais un peu marre, en fait, de faire ça. Donc, j'ai voulu, en fait, faire un stage à la cafétéria.
Oui.
Et puis, en fait, ça s'est assez mal passé. C'est-à-dire qu'on a considéré que j'étais là comme si j'étais là depuis 20 ans, vous voyez. Donc, on me disait, on me critiquait, etc. Et voilà, il y avait une personne en moins en plus, donc voilà, c'était un peu plus compliqué pour eux. Et quand je suis sorti, en fait, j'ai eu un entretien de fin de journée, en fait, et ça s'est passé pas trop mal, en fait, mais voilà, j'étais pas encore très très bien, en fait, on va dire. Et quand je suis sorti...
Ça, c'était en quelle année, Eric, par rapport...
C'était en 2017.
En 2017, donc au début,
en février 2017, voilà. Oui. Et quand je suis sorti fumer une cigarette... Je me suis mis à pleurer comme j'ai jamais pleuré avant, quoi. Donc c'est là que je me suis dit non mais là ça m'a plu, quoi. Il faut vraiment que j'aille voir un psychiatre.
Mmh.
Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, elle m'a dit oui, effectivement, vous avez un gros souci. Alors elle m'a pas su me dire quoi exactement. C'est ça que j'ai un peu. Plusieurs fois, je lui ai demandé la question, mais qu'est-ce que j'ai exactement ?
Oui, vous vouliez un diagnostic précis.
Oui. Un diagnostic précis, vous savez que c'est quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, le médecin il vous dit que vous avez une grippe. Bon, bah voilà, vous savez ce que c'est. Vous savez que vous avez une semaine au lit, etc. Voilà, vous savez où vous en êtes. C'est vrai que les maladies psychiatriques ou psychologiques, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Même pour les gens, même pour les médecins, je pense que c'est assez compliqué de l'indiquer.
Vous savez, Eric, il y a deux problèmes avec les maladies psychiques. Il y a le problème, il y a la question côté patient et la question côté soignant. C'est que faire un diagnostic quand il s'agit d'une maladie psychique, ça peut être beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que certaines maladies physiques parce qu'il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas d'IRM qui permettent de savoir quel est le trouble psychique.
Il
n'y
a pas de.
Il n'y a pas non plus d'instruments, de mesures. Donc, au fond, c'est comme une enquête psychologique quand on fait un diagnostic, c'est-à-dire qu'on essaie de réunir les signes. On fait des hypothèses, ça s'appelle le diagnostic différentiel. Donc, on a par exemple 2-3 hypothèses. Et ensuite, en fonction de ce qui va être amené comme élément nouveau, au bénéfice d'une ou l'autre des hypothèses, on va commencer à préciser la chose en entonnoir. Donc, parfois, il faut un certain temps pour faire un diagnostic. On sait bien ça en hôpital psychiatrique et en cabinet. Et il y a l'autre question. Donc, ça, c'est côté du soignant. Et il y a côté patient. Parce que, un diagnostic, on hésite toujours, on est toujours très prudent avant de l'annoncer au patient, parce que comme il a un trouble psychique, déjà, on est dans cette sphère-là, on ne sait pas si le fait de lui dire ce que nous pensons qu'il a va être quelque chose qui va le soulager en l'aidant à s'y repérer, ou au contraire, quelque chose qui va l'angoisser, voire le dévaster.
Ouais.
Donc parfois, on prend le temps aussi de bien connaître le patient, de voir sa demande.
C'est ce que j'ai compris, parce qu'après, j'ai lu des bouquins sur la psychiatrie, etc. Donc, parce que moi, je lis beaucoup. Donc, effectivement, vu dans l'état que j'étais, je me suis dit, bah voilà, je vais me mettre à la psychiatrie, on verra oui. si j'arrive à me repérer. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 14 ans, d'ailleurs. Quand j'ai 14 ans, j'étais adolescent et je dévorais en fait les livres sur l'adolescence pour être sûr que je correspondais bien au prototype.
Vous étiez angoissé quand vous aviez 14 ans ?
Oui.
Parce que c'est pas banal d'avoir ce type de lecture. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement ? Quelle était votre angoisse à 14 ans ?
Je crois que. En fait, moi, j'ai eu des très mauvais résultats scolaires quand j'étais au collège.
Oui.
Et je me considérais comme un imbécile. D'ailleurs, les profs me le disaient aussi, donc voilà, ça me confortait. Et puis, par rapport à ça, mes sœurs, elles, par contre, j'ai ma sœur qui est cadre infirmier, qui est professeure dans un IFSI, +5, etc. Ma autre sœur qui est infirmière. Donc, et moi, je me suis toujours senti le
inférieur.
Le vilain petit canard, on va dire. Voilà.
Donc ça a commencé, en fait, il y a quelque chose là, c'est que dans votre scolarité, vous avez eu une mauvaise image de vous-même à travers la performance scolaire. Et ce qui est assez, on ne va pas employer les grands termes, mais c'est déprimant.
C'était il y a 35 ans, vous voyez. Il y a 35 ans, je pense que ça a changé aujourd'hui, mais quand vous étiez nul en maths, vous étiez un imbécile.
Ah, c'est vrai qu'il y avait des normes. Il y avait des normes pour évaluer la qualité scolaire.
Il y avait des normes mathématiques. Effectivement, si vous étiez nul, vous pouviez être très bon en histoire, vous pouvez être très bon en français. Si vous étiez nul en maths, c'est que vous étiez un imbécile. Donc moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, notamment d'un prof. Une fois, j'ai failli sauter par la fenêtre, justement, parce qu'on était en train de faire des moyennes. Et il dit, regardez-moi ça, il n'est même pas capable de faire une moyenne.
Vous dites ça, c'est une image, Eric, ou réellement, vous avez eu des... Vous avez eu des pensées suicidaires ?
Oui, j'ai eu des pensées suicidaires, mais dès l'âge de 20 ans. Voilà. Dès l'âge de 20 ans, parce que je me considérais... Vous savez, moi, j'ai fait un bac professionnel qui n'a servi à rien, en fait. Qui n'a servi à rien. je me suis toujours retrouvé avec un travail au SMIC, etc., comme si je n'avais pas fait d'études. Et voilà, c'est quelque chose, moi, par rapport au cursus de mes sœurs, effectivement, je me sentais rabaissé par rapport à ça.
Donc, pour qu'on s'y repère, et je vous laisse reprendre, mais je pense que c'est important de s'y repérer dans le temps, puisque vous avez une question sur ce qui vous arrive. Donc, on peut dire qu'il y a un début de votre histoire avec le sentiment de déprime, dépression, enfin, à voir.
Oui.
Mais à 14 ans, donc déjà, vous vous sentiez dévalorisé par rapport à vos sœurs au regard de vos performances scolaires et vous aviez donc une mauvaise image de vous-même. Dans votre scolarité, vous aviez déjà des idées suicidaires en ayant l'idée que vous n'étiez pas à la hauteur ou que vous ne valiez rien. Et ensuite, donc, vous avez eu, là vous situez ça il y a 20 ans, donc certainement dans votre vingtaine en tout cas. Là, est-ce que c'est juste de dire que les idées sombres, elles ont été un peu plus continues à partir de là ? Est-ce que c'est
Alors,
ça ?
Ce qui est étonnant, c'est que quand je suis arrivé en première, parce qu'à l'époque c'était 2 ans de bac BEP et 2 ans de bac en fait, première et terminale bac. Et étonnamment, quand je suis arrivé en bac, alors j'avais changé de département, etc. J'étais totalement... Voilà, je suis arrivé en Saône-et-Loire, en fait. Et je me suis retrouvé deuxième de la classe pendant les 2 ans.
Ah oui ?
Je me suis retrouvé représentant de la classe, délégué, comme on disait, délégué scolaire pendant les 2 ans, etc. Et j'étais extrêmement bien dans ma peau.
Oui.
Et ça ne m'a pas empêché, après... de revenir en fait en dépression. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Vous voyez.
Et revenir en dépression, ça c'est en 2017, c'est l'épisode dont vous parliez.
Non, c'est en 2000 en fait. J'avais à 25 ans, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a beaucoup traumatisé. C'était en fait, on avait été invité par le patron chez lui. Il habitait à côté du magasin.
Oui.
Et en fait, à un moment, on est venu à parler des femmes qui faisaient des enfants tard, vers 40 ans.
Oui.
Et moi, je dis comme ça, écoute, moi, ma mère, elle m'a eu à 40 ans, et puis voilà, quoi. Et la femme, en fait, elle m'a regardé comme ça. Elle n'a pas osé le dire au départ. Et après, elle a fini par le dire. Elle m'a dit, oui, on voit le résultat.
Donc là, à nouveau,
donc, ça,
c'était la
c'est
même...
C'est un problème de physique. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est un problème... C'est un problème physique, voilà.
C'est-à-dire un problème physique
beaucoup,
vous pensez que c'est à ça qu'elle faisait référence
Oui, on m'a beaucoup insulté par rapport à ça. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai retrouvé un copain d'école où on s'était connu au CP, etc. Et on s'est retrouvé, et puis comme ça, sans, pour dire quelque chose, quoi, j'ai dit, bah voilà, j'ai une copine. Et il m'a dit, t'as une copine, toi, avec la gueule que t'as. Et voilà, c'est des choses comme ça, vous voyez, qui ont été récurrentes, en fait, et qui, voilà, qui m'ont fait que j'étais pas bien, quoi, en fait. Voilà. C'était, et surtout, il y a surtout une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 16 ans.
Oui.
À 16 ans, c'était en mois de juillet, août, je sais plus quand. Et en fait, j'ai participé à un camp de vacances avec une personne que je connaissais, puisqu'on était au conservatoire de musique tous les deux. Et moi, je ne connaissais pas trop ce gars-là, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un gros con. C'est-à-dire qu'il a passé, en fait, la semaine de vacances à se moquer de moi par rapport à mon physique. Il s'est moqué d'un autre parce qu'il était gros, etc. Et franchement, ça a été une semaine catastrophique. Et c'est ça qu'en fait, qui a immergé, en fait, de ma mémoire quand j'en ai parlé à la psychologue, en fait. Voilà. C'est la psychologue, en fait, qui a réussi à faire ressurgir, en fait, cette histoire-là. Et j'ai compris que c'était cette histoire, cette semaine-là, qui m'avait pourri la vie, en fait. Voilà.
En fait, Eric, vous semblez avoir deux failles, deux talons d'Achille, enfin, deux endroits où votre image de vous est fragile. C'est à l'endroit de la trace scolaire, c'est-à-dire où vous pensez que vous manquiez de capacité. Et c'est peut-être sur cette cicatrice-là qu'a appuyé le problème professionnel de 2017. Et il y a un autre talon d'Achille, une autre faille qui est du côté de votre physique, de ce qui vous en a été dit. Ça, c'est les deux failles qui apparaissent dans votre discours.
Et ce que j'ai pas compris, c'est que... Bon, moi, je dis clairement, je suis homosexuel. Et ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, de sortir avec des garçons qui étaient très beaux.
Oui.
C'est eux qui sont venus vers moi, en fait. Et c'est ça que j'ai pas compris, en fait. Vous voyez ?
Vous leur avez posé la question ? Vous leur avez demandé ce qui les avait attirés chez vous ?
Content.
Oui. Ben oui, on interroge rarement le bonheur, c'est vrai.
Même si c'était que pour une nuit, je m'en foutais, quoi, vous voyez, c'est bon, voilà. Mais au moins, même le fait, même le rapport sexuel, tout simplement, bon, voilà, on choisit pas n'importe qui, quoi, et on choisit quand même quelqu'un qui nous plaît, quoi, forcément. Et c'est vrai que ça m'a chamboulé, quoi.
Vous vous êtes rendu compte que vous pouviez être désirable dans le regard de quelqu'un.
Oui, désirable, voilà, tout à fait.
Alors que c'était l'inverse, enfin, le désirable, c'est diamétralement opposé au rejet que vous aviez subi, enfin, en tout cas sur les choses dévalorisantes. Et aujourd'hui.
C'est là que j'ai commencé à me poser la question, je me suis dit, mais c'est quoi la beauté ? La beauté, c'est quand même quelque chose d'extrêmement relatif. C'est-à-dire que moi, je suis sûr que je vais me balader avec un copain à côté de moi, je vais lui dire, bah, tu vois, ce mec-là, il est beau. L'autre, il va me dire, bah non, il est moche.
Et c'est surtout, Eric, que le désir, ce qui rend désirable, ça n'est pas que la beauté. La beauté, c'est une des dimensions qui peut susciter le désir, mais il y en a bien d'autres. La littérature
en est... Oui, quand on parle d'amour, effectivement, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis, tu sais, on n'aime pas les gens pour ce qu'ils sont, pour leur beauté. On aime les gens pour ce qu'ils ont dans la tête. Voilà.
Et peut-être qu'il y a autant de raisons d'aimer qu'il y a de personnes. Je crois que c'est ce qui fait la diversité humaine et ce qui fait que chaque personne peut faire la bonne rencontre. C'est que chaque personne peut donner sa façon de tomber amoureuse, sa façon d'être attirée, de désirer et d'aimer.
Tout à fait. Mais bon, il y a une différence quand même entre de dire bah, ce gars-là, il ne me plaît pas, ce gars-là, il est moche, etc. Et puis, on passe son chemin. Et le fait de dire, bon bah t'es moche, mais bah, je vais bien me foutre de toi, je vais bien te rabaisser, etc. Vous voyez, moi c'est ça que j'ai vécu en fait.
Oui.
Donc moi à la rigueur, quelqu'un qui me plaît pas, bah, je vais passer à côté, quoi. Je veux dire, je vais pas l'insulter, je vais pas lui dire t'es moche, je vais pas lui dire, voilà. C'est ça que j'ai pas compris moi en fait, dans ce comportement en fait, des autres en fait.
Voilà. Chez l'être humain, enfin dans l'humanité, il y a une part non négligeable de sadisme. Enfin, il y a des personnes qui sont dans des positions de sadisme et de cruauté. Donc ça, ça existe. Ça fait partie de la réalité humaine. Certainement des personnes qui sont dans le mal-être, qui n'ont pas pu réfléchir, se guérir. Enfin, ça, c'est leur affaire. La question, c'est plutôt quand ça se produit de manière régulière dans votre vie. C'est la forme de répétition. C'est interroger ce qui se passe à l'échelle de votre propre vie. Est-ce que ça se répète parce que votre histoire d'enfance a créé une sorte de motif qui va venir se dupliquer dans votre vie? C'est ça que vous pouvez interroger dans une thérapie. Après, que l'humanité soit sadique, cruelle et toutes sortes d'autres défauts, on sait bien que ça existe. Simplement, ce qu'on peut savoir, c'est pourquoi ça fait série dans notre propre vie. C'est à ça que ça sert, la thérapie, entre autres.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire pourquoi ça m'a marqué, en fait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui diraient, bon, bah, il m'insulte, mais je m'en fiche, quoi. Alors que moi, c'est vraiment, voilà, je suis dans le passé, quoi. J'arrive pas à me défaire de ça. Et j'ai pas l'impression que la psychiatrie m'aide à m'en défaire, quoi. C'est-à-dire que.
Alors, Eric, peut-être pour ceux qui nous écoutent.
Et puis, voilà.
On va donner quelques repères pour ceux qui nous écoutent. Donc, effectivement, la sphère psy, ce qu'on appelle psy, ce sont des métiers assez différents. En effet, comme vous le rappelez à l'instant, le but premier de la psychiatrie, c'est une discipline médicale, c'est une spécialité médicale. Ça sert à faire le diagnostic psychique qui sert de support à la prescription médicale. Donc en fait, c'est ça la psychiatrie. On fait un diagnostic pour pouvoir prescrire le traitement qui correspond et on mène les entretiens qui permettent le suivi de cette prescription pour voir si elle convient à la personne et la faire évoluer. Donc ça, c'est la psychiatrie à la base. Parfois, les psychiatres ont une double formation. Il y a donc les psychologues, effectivement, qui c'est manifestement avec une psychologue que vous êtes en thérapie, c'est ça aussi?
Non, c'est avec un psychiatre.
Ah, d'accord, donc il fait les deux. Il fait à la fois la prescription et la thérapie.
RSA, et comme c'est pas remboursé, la psychologie, je reste au psychologue, quoi.
D'accord. Et puis la troisième discipline, donc c'est la psychanalyse, donc dont je fais partie. Donc je suis psychanalyste qui travaille avec l'inconscient. Mais effectivement, peut-être que la difficulté que vous rencontrez, c'est que vous avez une prise en charge psychiatrique qui vous a certainement prescrit un traitement, mais c'est pas parce que quelqu'un vous prescrit le traitement adapté que c'est forcément la personne qui va vous convenir pour le travail thérapeutique.
C'est ça.
Est-ce que c'est ça que vous ressentez aujourd'hui, que c'est le
oui,
côté
c'est
thérapie
ça.
Qui c'est piétine?
Ça fait 4 ans qu'on me donne des médicaments. Alors ça a été d'abord le médicament le plus connu là que j'avais essayé à 20 ans justement, qui m'avait changé la vie à 20 ans et qui maintenant me sert plus à rien.
Ouais. C'est un antidépresseur. Bon, on évite de donner des noms de médicaments, mais c'est plutôt des familles. C'est un antidépresseur.
Mais c'est vrai que il est très connu. Hein. Donc c'est pour ça, si vous pouvez voir. Et puis là, il a changé mon traitement parce que je lui ai dit que j'arrivais pas à dormir le soir. Donc du coup, il m'a changé un traitement qui me permet de mieux dormir, effectivement. Et j'ai l'impression que ce médicament, oui, il me fait de l'effet, effectivement. Voilà. Donc, c'est vrai que l'antidépresseur, il y en a toutes sortes, et effectivement, il faut vraiment arriver à trouver celui qui correspond vraiment à ce que vous êtes, quoi.
Aujourd'hui, Eric, qu'est-ce qui vous pose problème dans votre vie? C'est-à-dire, avec quel trouble vous avez.
C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire du surplace. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression, voilà, je vais passer toute ma vie à prendre des médicaments, mais ça n'a pas changé ma façon d'être, ma façon de me sentir, en fait.
C'est-à-dire, voilà. De quoi vous souffrez encore, aujourd'hui?
De mon passé, je souffre encore de ça. Et j'ai envie
attendez,
d'en
je vous arrête un petit instant pour qu'on cerne bien votre question. Aujourd'hui, les questions que vous avez, ce sont, vous souffrez de questions existentielles ou vous souffrez de symptômes du type des moments de grand abattement, des moments d'idées noires, des idées suicidaires? De quoi souffrez-vous?
J'avoue que moi, ma santé mentale, en fait, il y a des fois, je suis très bien. Oui. La dernière fois que je suis allé voir mon psychiatre, j'étais extrêmement bien. J'ai dit, écoutez, j'ai l'impression que je suis guéri. J'ai dit ça comme ça. Mmh. Il m'a dit, non, vous n'êtes pas guéri. Mais voilà, je me sentais très, très bien. Et le soir même, j'étais au fond du trou, quoi. Voilà.
Et ça arrive souvent que vous ayez des hauts et des bas comme ça?
Ouais, ça m'arrive.
Donc en fait, ce dont vous souffrez, c'est que vous ne vous sentez pas stabilisé?
Non, je ne me sens pas sauvé. Et puis, vous savez, l'histoire que je vous ai racontée de la semaine de vacances, en fait, je l'ai écrit par écrit. Parce que moi, j'aime beaucoup écrire des nouvelles, en fait. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire cette histoire. Et en me disant, peut-être que ça va me faire du bien. Et puis finalement, non, ça ne me fait pas plus de bien qu'autre chose. Donc voilà, j'essaye un peu de... Voilà, j'aurais à avoir un psychologue, en fait, qui puisse me dire, voilà, ce serait bien de faire ci, faire ça, etc., de sortir, de... Parce que c'est pareil, j'ai pas d'amis, parce que, vous savez, je me sens tellement moche, en fait, que j'ose pas aller vers les gens, en fait. Vous voyez, donc c'est un cercle vicieux, quoi.
Ce qui m'apparaît clairement, Eric, dans ce que vous dites, c'est que vous avez affaire à deux types de problématiques. Vous avez la problématique des symptômes. Donc les hauts et les bas de votre humeur, des moments où vous avez le sentiment que vous vous sentez bien et des moments où ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est typiquement ce que vous traitez avec votre psychiatre. Enfin, les molécules sont là pour aider à réguler, à stabiliser, à lisser quand les creux sont trop cruels. Mais vous avez aussi une autre problématique dans ce que j'entends, c'est plus existentiel, c'est-à-dire vous interrogez votre histoire, vous interrogez les blessures morales qui ont pu laisser des traces, vous interrogez la question du bonheur, de vos rapports avec les autres. Ça, ce sont des sujets typiquement de thérapie. La thérapie, parfois, elle peut être faite par le psychiatre, parfois pas. Moi, je pense que si vous avez l'impression de ne pas avancer sur ces questions existentielles, peut-être pouvez-vous garder votre psychiatre qui vous connaît et qui fait un suivi de la prescription et aller voir quelqu'un d'autre, même si jamais vous avez besoin d'une prise en charge, même aller voir un autre psychiatre qui est aussi thérapeute pour pouvoir poser vos questions existentielles et essayer de les faire avancer. Ça, c'est vraiment, je crois, le meilleur conseil que je puisse vous donner.
C'est ça, de voir un psychologue. Moi, je pensais,
enfin, peu importe, psychologue, psychanalyste, en tout cas, ou autre psychiatre qui ne fera que la thérapie. Mais là, je crois que c'est la partie thérapie qu'il s'agit de dynamiser, d'après ce que vous dites.
C'est ça.
Donc là, vraiment, je vous conseille de garder votre psychiatre pour la prescription et d'aller voir un autre thérapeute. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur repère que de voir avec qui vous vous sentez bien pour poser ces questions de vie et essayer de leur redonner une dynamique. Bon, Eric, eh bien, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles éventuellement des démarches que vous avez entreprises, de témoigner, de voir si ça a pu vous faire avancer et vous aider à vous connaître mieux. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, au sein des problématiques des personnes, ouais, vous, c'était une problématique psychique.
Avoir un psychiatre, qui soit psychologue en même temps, c'est assez difficile à trouver sur les pages jaunes, par exemple, parce qu'il n'y a pas de spécificité, quoi. C'est vrai que...
Je crois que la seule façon, c'est de les appeler et de leur poser la question, de leur formation. Je crois que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire s'ils ont une double formation.
Je suis au psychologue, mais... psychologue, faut le payer, quoi, donc c'est pas remboursé.
Bon, c'est mais pas certains acceptent de faire des feuilles de santé. Je pense que c'est du cas par cas. Il faut leur poser leurs questions et voir s'ils peuvent prendre en charge la thérapie.
D'accord.
Ouais. Bonne recherche,
ouais,
Eric.
Merci beaucoup.
Bonsoir, Eric.